Grand reportage qui nous conduit aujourd'hui au Cambodge. Si le procès Duc a commencé le 17 février dernier, c'est aujourd'hui qu'ont débuté les débats sur le fond de ce dossier. Duc, ce directeur de la plus célèbre prison de Pol Pot sous les Khmers Rouges, 15 000 personnes sont mortes dans ce centre, le centre S21, une hécatombe entre 1975 et 1979. Alors aujourd'hui se posent de nombreuses questions sur cet homme. Qui est Duc? Quelles sont ses responsabilités exactes, monstre ou simple exécutant d'une bureaucratie de la mort? C'est à la justice de le dire. Duc, l'affaire numéro 1, un grand reportage de Stéphane Lagarde.
Aujourd'hui, au nom du peuple cambodgien et de l'Organisation des Nations Unies, la Chambre déclare ouverte l'audience initiale dans l'affaire 001 relative à Keng Kek Iho, alias Duc, âgé de 66 ans. À qui sont reprochés des crimes.
Le sourire a disparu, mais le visage est bien le même. Les traits toujours aussi fins, les cheveux coupés de près, de larges oreilles. C'est bien lui, camarade Duc, comme le mentionne la légende sur cette photo datée d'il y a 30 ans. Duc, l'affaire numéro 1 dans le procès des Khmers Rouges. L'homme assis dans le box des accusés a aujourd'hui troqué le pyjama noir des fonctionnaires de l'Ankar pour une chemise bleue. Il y a 30 ans, il dirigeait le centre S21 de Phnom Penh, un centre de détention qui figure désormais sur les circuits touristiques proposés par les tuk-tuk, les motocyclos qui pullulent en ville. S21, dit aussi Tuol Sleng pour les Cambodgiens, l'ancien lycée devenu prison sous Pol Pot est aujourd'hui transformé en musée. Le jour se lève à peine, à l'abri sous un frangipanier, Chong Mei nous attend. C'est l'un des trois derniers rescapés de S21.
Je m'appelle Chong Mei, je suis né à Prai Veng, dans la commune de Chom Le Vier, et j'étais mécanicien. Maintenant j'ai 78 ans.
Il a un petit carnet bleu sur son pantalon là, un petit carnet bleu qu'il tient très très serré. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
J'ai noté tous les rendez-vous comme des journalistes australiens ce matin et l'après-midi il y a deux autres groupes de japonais.
Il voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes, il n'y a pas que nous aujourd'hui, il a beaucoup de rendez-vous.
Il y a beaucoup de journalistes qui viennent de Suède, Autriche, c'est de l'histoire et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me posent des questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de journalistes cambodgiens aussi?
Il y a très peu de journalistes cambodgiens, la plupart sont des étrangers.
Les journalistes et les touristes cambodgiens viennent rarement à Tuol Sleng. Difficile de regarder en face les visages des martyrs de S21 exposés dans le musée. 14 000 hommes, femmes et enfants ont été incarcérés ici, torturés ici, exécutés à Tuol Sleng entre 1975 et 79. Chong Mei.
Quand je suis arrivée ici, je n'ai pas de vêtements, j'ai qu'un petit slip à l'intérieur. Et mes mains sont menottées derrière comme ça. Et quand on est arrivé à l'escalier ici, il m'a demandé de monter en tirant les oreilles comme ça. Quand ça descend, il tire en bas.
Et quand ça monte, il tire l'oreille vers le haut.
Ici. Il m'a tiré les oreilles pour entrer dans cette petite chambre.
Nous sommes dans un ancien lycée et il y a des briques, des petites briques rouges qui ont été apportées pour faire des petites cellules où étaient amenés les prisonniers.
Voilà, je suis mis ici, il a mis la chaîne au pied comme ça. Et il y a des bidons. Là, ce bidon-là, je me souviens très bien que c'est à moi à l'époque. Le petit, c'est pour quand on fait pipi et l'autre quand on fait caca. Et moi, je dois dormir ici sans vêtements, comme ça, sur, sans nappe, sans rien.
Sur le sol.
Sur le sol. Quand je fais du bruit avec la chaîne, quand je bouge, sans demander la permission, il m'a frappé 200 coups. Il a mis la machine électrique sur mes oreilles comme ça et après j'étais s'évanouie. Et voilà, toujours dans ma tête j'entends le bruit tout le temps et mes yeux sont des éclairs comme des éclairs.
Impossible d'oublier les tortures à l'électricité pour les survivants. Impossible pour la capitale, baignée de soleil et bercée par les musiques sucrées dans les transistors, de faire abstraction des horreurs qui ont eu lieu à l'intérieur de ce centre, destiné littéralement à écraser les ennemis de la révolution. coups, choc électrique, forcé de manger des excréments, forcé à boire de l'urine, pendaison la tête en bas, les ongles arrachés, supplice de l'eau. Et souvent, non loin de ces tortures, un homme grille cigarette sur cigarette. Douk, le directeur de S21.
Ce qu'on sait de l'homme, c'est que c'était un prof de maths qui a adhéré au parti communiste cambodgien dans les années 60.
Raoul Marc Génard, docteur en sciences politiques et en études Khmer, expert auprès de l'ONU sur le procès des Khmer Rouges.
Qui, comme on le disait à l'époque du combat contre la République Khmer, est entré dans la forêt au début des années 70, et Douk a très vite exercé des fonctions de chef de service de sécurité. Fonctions qui l'ont amené à être le directeur du centre S21. C'était en fait l'appareil de sécurité qui relevait du comité central du Parti communiste, mais c'était un élément dans un ensemble beaucoup plus vaste.
192 centres comme celui de S21 existaient sous le Kampuchea démocratique, selon les historiens. Un seul directeur a été arrêté, un seul a avoué ses fautes, un seul est aujourd'hui devant le tribunal. François Roux, l'un des avocats de la défense.
Douk attend son procès depuis 10 ans. Donc il a dit dès le début au juge d'instruction, dès août 2007, je m'expliquerai devant vous d'abord, ensuite publiquement, devant le tribunal. Douk est extrêmement conscient de la hauteur, je dirais, des crimes qui ont été commis par lui et par les autres. Douk est dans un état d'esprit de repentance, je dirais d'expiation. Je pense que c'est un état d'esprit qui peut aider les victimes. Et au-delà, la population cambodgienne, qui a besoin que ceux qui ont été des acteurs de cette tragédie reconnaissent publiquement et demandent pardon.
សម្រាប់វិទ្យុកំពង់ធំ FM 98.3 MHz ផ្សាយចេញពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំ
Radio Kampong Thom, dans la province natale du directeur de Tuol Sleng, on noie aussi le passé en musique. Qui est Douk ? Pour comprendre, nous prenons la route qui longe le lac fleuve de Tonlé Sap. Il y a 30 ans, au même endroit, Phnom Penh marchait comme un seul homme, foule déboussolée, poussée par les fusils des Khmer Rouges, a quitté la capitale. Depuis, Lin Saron est revenu à Kampong Thom. Je suis un ami de Douk, dit-il.
Je m'appelle Lin Saron. Je suis un ami de Douk. Oui, je connais Douk depuis 1961. On s'est connus parce qu'à l'époque, nous fréquentions la même classe. En 1962, nous avons tous les deux été à Phnom Penh. Nous étions pauvres, nous dormions à la pagode de Nalom. Douk était très doué. Au bac, il a obtenu de très bons résultats. Il est même arrivé premier. En fait, il était toujours dans les premiers. C'est pour ça qu'il a eu le concours de professeur. Cette intelligence s'exprimait dans des conversations à n'en plus finir entre les étudiants. On parlait politique, bien sûr. Il portait toujours à la main le petit livre rouge de Mao Tse-tung.
Victime d'un système, cette ligne de défense n'est pas acceptable pour les familles des 2 millions de morts du régime de Pol Pot. Elle était pourtant avancée pendant des années par les anciens responsables Khmer Rouge, pour la plupart morts en liberté.
Douk était bon élève, il était fasciné par ses professeurs. Il est finalement lui-même devenu professeur.
Professeur premier cycle de mathématiques.
On s'est séparés en 1972 quand il est entré à l'université des lettres Khmer. À ce moment-là, c'était un garçon calme, très sérieux et dénué de toute méchanceté. Ce n'était vraiment pas un violent Douk à l'époque.
Quand est-ce qu'il a changé, Douk ? Pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu après ?
Il n'était pas méchant, il n'était pas pervers, ça j'en suis persuadé. Ce n'est pas l'homme qui a un problème, c'est l'idéologie. Le communisme et le système Khmer Rouge l'ont poussé à faire ce qu'il a fait. Il n'avait pas le choix. On dit aujourd'hui 20 000 personnes sont mortes à Tuol Sleng. Et c'est de la faute de Douk. Ce n'est pas vrai. À l'époque des Khmer Rouges, vous n'aviez pas le choix. Il fallait suivre les ordres. Ne pas respecter les directives de l'ANCAR, c'était signer son arrêt de mort.
Qui est Duque ? Un monstre ou un simple exécutant d'une bureaucratie de la mort, baigné de stalinisme, intoxiqué au petit livre rouge de Mao ? La réalité est évidemment beaucoup plus complexe. Raoul Marc Génard.
C'est vrai que Duque est d'origine chinoise. Donc il parle le chinois, il a encore de la famille en Chine. Et c'est vrai que la révolution, la grande révolution culturelle prolétarienne, 1966, a un impact considérable, notamment au Cambodge.
Staline et Mao comme moteur, en tout cas au départ, est-ce que ça amène forcément à devenir directeur d'un centre comme S21 ? C'est ça qui est assez étonnant. Il y a peut-être d'autres personnes qui étaient étudiants aussi à la même époque, aussi sans sous dans les pagodes, en train de lire le petit livre rouge et d'autres. Et pourtant, ils ne sont pas devenus directeurs.
Oui, ça, j'espère que le procès va nous révéler le cheminement qui amène un prof de maths, c'est-à-dire un intellectuel, quelqu'un qui lit, qui est cultivé, qui n'est pas une brute sortie des peuplades indigènes, des hauts plateaux du Cambodge. Je pense, pour ce qu'on en sait, c'est que c'était un homme consciencieux. Toutes les traces dont on dispose, moi j'ai pu examiner des confessions qu'il a annotées, qu'il a soulignées. On voit que c'est un homme consciencieux, on voit que c'est un homme rigoureux, qui a le souci de la méticulosité. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été retenu pour ce rôle ? C'est le procès qui va nous le révéler.
Fonctionnaire zélé, donc appliqué.
Un fonctionnaire zélé, oui, un fonctionnaire appliqué. De ce qu'on peut savoir de sa personnalité, c'est ce qui transparaît dès à présent.
Pénétrer à S21, c'était automatiquement devenir coupable. La torture au service de l'aveu, la révolution qui broie ses propres enfants, forcés de reconnaître qu'ils appartiennent à la CIA, au KGB, au service secret vietnamien, et même parfois aux trois en même temps. Chong Mei a perdu sa femme et ses enfants à S21. Il a une question, une seule, à poser à l'accusé. Pourquoi ?
Je voudrais lui demander quelle est ma faute, moi et mes enfants. Pendant le premier procès, Deutsch, il était là et il a pleuré. Et dans ma pensée, même s'il pleure, il pleure et ses fleurs coulent, ce qu'a devenu la rivière, tout ça, mais ça ne peut pas effacer toutes les histoires qu'il a commises. Je pardonne ou je pardonne pas, ça dépend qu'il dit la vérité, qu'il accepte que c'est sa faute. On dit que c'est fini l'histoire des Khmer Rouges. Dans leur cœur, les Khmer Rouges, ils se souviennent toujours de ce qui s'est passé. C'est toujours rouge dans leur cœur.
François Roux.
Les victimes attendent énormément d'un procès comme celui-là. Elles attendent, c'est bien normal, c'est bien légitime. Des réponses à des questions. Pourquoi tout ça ? Quand on voit ce qui s'est passé à S21 et ailleurs, pourquoi tout ça ? Et je leur dis, attention, vous n'aurez pas les réponses à toutes les questions. Est-ce qu'un humain peut expliquer ce que c'est que l'inhumain ? Et ce qui s'est passé à S21 est totalement inhumain. Les bourreaux niaient l'humanité de leurs victimes. Et en même temps, ils perdaient eux-mêmes, les bourreaux, leur humanité. Et l'enjeu de ce procès, c'est d'abord de rendre leur humanité aux victimes, mais en même temps, de retrouver l'humanité des bourreaux.
Retrouver l'humanité des bourreaux, dit l'avocat de Duque. Mais comment pardonner ? Près du Palais Royal à Phnom Penh, les touristes tentent d'oublier les visages de S21. Nous y retrouvons Linda, notre traductrice. Les bateaux glissent péniblement sur les eaux boueuses du Mékong, sur les berges du fleuve, des cages qui ne demandent qu'à s'ouvrir.
Il y a beaucoup d'oiseaux ici. Et elles sont vendues en Perse à coût de 3000 lire. C'est-à-dire à peu près $1.
Qu'est-ce qu'on fait avec ces oiseaux ?
Les gens viennent et l'achètent et après ils les relâchent.
Libérer les oiseaux, donc les sortir de la cage et les libérer. Ils partent après, ils s'envolent là au-dessus du Mékong, du grand fleuve, là devant le Palais Royal. Est-ce que les gens pensent aussi à toute cette liberté qui a disparu pendant les Khmers Rouges, à ce moment, particulièrement ?
Je pense que plus ou moins ça fait partie, parce que nous on pratique le bouddhisme, et les gens croient au karma, le mal. Quand on fait du mal, on a du mal, quand on fait du bien, on a du bien. Et certains dirigeants ici, ils ont quand même fait partie des Khmers Rouges. Et il essaye de construire la parole, de faire des beaux choses, c'est oublier le passé et... reconstruire la nouvelle vie, en fait. Et c'est pour lui faire oublier du mal aussi du passé.
Comment on dit liberté ?
Serai Piep. Serai Piep.
Douk, l'affaire numéro 1 du procès des Khmers Rouges, un grand reportage de Thomas Ferrière, Benjamin Avayou et Stéphane Lagarde.
Stéphane Lagarde, on vous retrouve en ligne de Phnom Penh où vous suivez le procès Douk pour RFI. Alors Stéphane, à l'écoute de ce reportage, on l'a entendu, il reste énormément de questions posées. Et celle-ci, Douk peut-il payer pour ses crimes ?
Au bien vu des faits qui lui sont reprochés, on voit mal, hein, Caroline, comment il pourrait effectivement échapper à cette condamnation attendue par beaucoup ici. Douk, vous le savez, reconnaît une partie des faits, hein, d'ailleurs, qui lui sont reprochés et demande pardon aux victimes. C'est d'ailleurs l'une des principales lignes de défense de ses avocats. Or, ce n'est pas non plus, hein, vous l'avez entendu, ce n'est pas sûr du tout que les victimes accordent ce pardon. J'étais tout à l'heure encore avec Maître Olivier Sûr, l'un des 15 avocats de ces 93 victimes, 93 parties civiles convoquées sur ce dossier numéro 1. Et il me disait, Maître Olivier Sûr, beaucoup de nos clients pourraient refuser ce pardon. Et puis Caroline, Douk ne reconnaît pas tout. Hein. Tout à l'heure, lors de la lecture de l'acte d'accusation, le procureur a évoqué, par exemple, hein, la disparition de 160 enfants, tous tués après être passés par S21, tous tués dans la même journée. Pour ces enfants-là, par exemple, Douk a nié les faits. « Je n'étais pas là », a-t-il expliqué, lors de ces disparitions, de ces assassinats, lors des audiences préliminaires. Donc, il a été entendu avant ces audiences, bien sûr.
Alors, Douk, élève brillant, professeur, devenu tortionnaire en chef, comment comprendre ce zèle dans l'horreur ?
Eh bien, d'abord, par la personnalité de cet accusé, qui va être bien sûr défini tout au long de ce procès. Aujourd'hui encore, on a vu plus le professeur de mathématiques, j'allais dire, que le tortionnaire, hein, sur le banc des accusés. Vous l'avez entendu dans le reportage, ce qui était le plus important à S21, c'était l'extorsion des aveux des prisonniers. Douk notait soigneusement ses confessions à l'époque. Et aujourd'hui, on a vu quelqu'un impassible, qui écoutait hein, 4 heures quand même d'ordonnance de renvoi. C'est très long, tous ces faits qui lui sont reprochés. Pendant 4 heures, on l'a vu noter, surligner tout ce qui lui était reproché, jusqu'au pli de sa chemise, hein, une chemise blanche impeccable, repassée au millimètre. Et puis sous ses lunettes, ce vieil homme qui semblait lire l'acte d'accusation, noté donc pendant 4 heures, replongé dans ses souvenirs et aussi, bien sûr, on l'imagine, préparer sa défense et puis ce qui va se passer dans les semaines qui viennent.
Alors un verdict qu'attendent les victimes, qu'attend aussi le pays. On a l'impression qu'un peu on veut réparer l'impossible aujourd'hui.
Oui, et puis il y a une énorme attente, j'allais dire. J'étais encore ce matin avec les parties civiles notamment, et puis surtout le public tout simplement. J'étais avec un groupe d'étudiants, 35 personnes, j'étais avec une vieille dame, et tous m'ont dit on attend énormément, on veut comprendre d'abord. Il faut comprendre ici, Caroline, que pour beaucoup, 68% des Cambodgiens ont moins de 30 ans, connaissent cette histoire que par leurs grands-parents, et donc ils attendent beaucoup de comprendre. Ils ont été parfois très choqués par ce qui a été dit aujourd'hui lors de l'ordonnance de renvoi. Une jeune fille m'a dit par exemple, je n'ai jamais été à S21, qui est un musée accessible à tout le monde, je n'y ai jamais été. Pourquoi ? Parce que ça me fait peur, ça me terrifie cette histoire. Et puis il y a une énorme attente, il faut dire que ce dossier numéro 1 fait plus de 1000 pages, là il y avait 150 pages lui aujourd'hui, on va apprendre beaucoup, c'est tout un pan du Kampuchea démocratique qui va être fait, c'est de l'histoire en marche finalement ce procès pendant les semaines, les mois qui viennent maintenant, on attend ce qui va se dire et c'est l'histoire qui s'écrit au quotidien.
Stéphane Lagarde, merci beaucoup. Douk, l'affaire numéro 1, un reportage que l'on peut réentendre sur internet www.rfi.fr. Grand reportage. Demain, nous partirons pour les Philippines, donc toujours l'Asie. Davao, sur l'île de Mindanao, un territoire où deux rébellions sont actives. Une région où sévissent aussi des justiciers autoproclamés. Les escadrons de la mort de Davao. Des meurtres passés sous silence. C'est un grand reportage signé Sébastien Farcy.